Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt, parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté.
Les nouvelles mesures de restriction annoncées hier soir, les Marseillais n'en veulent pas, ils sont prêts à entrer en résistance, nous dira Nathalie Chevance.
Partout dans les mairies et les préfectures, on négocie. Les municipalités bataillent pour éviter des restrictions trop sévères.
Mais le gouvernement campe sur ses positions. Chaque jour compte. C'est dans ce contexte que Jean Castex fait son premier grand oral ce soir à la télé. Et il est attendu au tournant.
Pas de licenciement, mais des baisses de salaire. Confrontées à la crise, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à brandir cet outil Covid.
30% de cyclistes en plus depuis le 11 mai et 15% d'accidents supplémentaires. Attention à vélo, attention au vélo. La sécurité routière lance une campagne de sensibilisation. La Bourse de Paris a terminé ce soir en baisse de 0,83% à 4762 points.
Et puis la tendance météo avec vous, Anissa. Le temps s'annonce encore plus agité demain.
Oui, avec encore beaucoup de pluie, des orages, un département placé en vigilance orange. Et demain, attention, l'arrivée de la neige. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et certains comme l'adjointe à la mairie de Marseille, Samia Ghali, n'hésite pas aujourd'hui à appeler à la désobéissance civile.
Oui, Marseille ne veut pas entendre parler des mesures drastiques annoncées hier soir par le ministre de la Santé. Les bars et les restaurants devront fermer dès samedi dans toute la métropole.
Les Marseillais qui n'ont donc pas l'intention de se laisser faire, ils avaient demandé un délai de 10 jours, sauf qu'on peut vous dire, de source gouvernementale, que l'exécutif ne cédera pas. Il estime que l'heure est trop grave pour pouvoir se permettre d'attendre, car chaque jour compte.
En tout cas, on a vraiment l'impression que Marseille est une cocotte minute, prête à exploser d'une certaine manière. Nathalie Chevance, vous êtes la correspondante d'Europe 1.
Et oui, plus les heures passent, plus la colère gronde. Colère politique de la région, de la métropole et de la ville de Marseille. Chiffres à l'appui, les élus expliquent que le pic épidémique est passé. 10 000 tests réalisés par jour à Marseille. Les efforts commencent à porter leurs effets. Résultat, Benoît Payan, le premier adjoint, estime que les nouvelles restrictions imposées par Paris sont un affront.
Notre territoire est aujourd'hui sanctionné, puni, montré du doigt. Alors vous comprendrez que nous sommes aujourd'hui dans l'incompréhension et dans la colère parce que notre ville vient d'être mise en quasi-confinement sans que personne n'ait été concerté. Et c'est pour cela que nous n'acceptons pas d'être l'outil d'une politique spectacle, d'un ministre qui peine à gérer ses échecs.
Alors les élus et les représentants des cafetiers restaurateurs ont été reçus en préfecture tout à l'heure pour faire remonter le message. Le gouvernement doit revoir sa copie et le ton monte, insiste Frédéric Jean-Jean, secrétaire général de l'UMIH des Bouches-du-Rhône.
Le risque, il est d'arriver, de basculer dans la violence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui soient prêts à n'importe quoi. Un chef d'entreprise, s'il perd son emploi, derrière, il perd son logement, il perd sa famille, il perd tout. On peut se retrouver avec des gestes de désespoir. Donc il faut à tout prix éviter cela. Il faut en appeler à la responsabilité de chacun, et même des ministres.
Et pour dénoncer le reconfinement de l'économie, une manifestation est prévue dès demain matin avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie.
Le reportage de Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Des Marseillais qui dénoncent donc, on vient de l'entendre, une punition collective et des élus locaux qui se plaignent de ne pas avoir été consultés. Le ministre de la Santé leur a répondu ce matin lors de son audition devant le Sénat. Olivier Véran fait valoir le principe de responsabilité.
Je me suis rendu à Marseille le 27 août et j'ai passé, je crois, plus de 2 heures en préfecture de Marseille à discuter avec les parlementaires, les élus de la ville, de la métropole du département, de la région et plusieurs maires de communes adjacentes de Marseille. J'ai également rencontré la maire de Marseille en préfecture de Marseille pendant plus d'une demi-heure. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, je leur ai dit que si nous ne prenions pas rapidement des mesures de gestion pour enrayer la circulation du virus, il était à craindre que nous soyons obligés de prendre des mesures plus fortes plus tard.
Olivier Véran, ce matin devant le Sénat, qui tente donc d'éteindre cette colère qui gronde un peu partout en France, pas seulement à Marseille. C'est le cas dans toutes les régions où l'on s'attend à de nouvelles restrictions.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'on s'agite beaucoup hein, dans les états-majors des préfectures et des mairies, dans les 11 métropoles désormais classées en alerte rouge renforcée, c'est-à-dire Paris, Lyon, Rennes, Grenoble, Bordeaux, Saint-Étienne, Rouen, Nice, Toulouse, Montpellier et Lille. Des négociations qui se font un peu à la carte, Joanna Chabas.
Effectivement, et le principal point de tension, c'est la fermeture des bars et restaurants à partir de 22h. Ou même, plus tôt, c'est le préfet, en consultation avec les élus locaux, qui doit décider. À Paris, par exemple, les professionnels du secteur espèrent qu'une distinction sera faite entre restaurant et bar. Dans un restaurant, les clients sont assis. Les patrons estiment qu'il est alors possible de respecter le protocole sanitaire, donc de les laisser ouvrir après 22h. contrairement aux bars. C'est le même espoir à Toulouse où les élus se demandent aussi s'il y aura une différence faite entre l'hypersante avec des étudiants, des jeunes de plus en plus contaminés par le virus et le reste de la commune moins dense où bars et restaurants pourraient ouvrir. À Nice, c'est une autre option qui est envisagée. Christian Estrosi s'inspire en fait des théâtres et cinémas qui peuvent ouvrir s'ils signent un protocole sanitaire strict. Il veut appliquer la même chose aux restaurants et aux bars. Il a envoyé sa feuille de route au préfet ce matin. Vous l'aurez compris, chaque négociation sera différente. À Rennes et à Bordeaux, les préfets doivent communiquer leurs réponses demain.
Merci beaucoup Johanna Chabas. De leur côté, les deux principales organisations patronales demandent de nouvelles aides publiques et des annulations de charges afin de compenser les pertes d'exploitation. C'est une question de survie, dit même le président du MEDEF.
En tout cas, ce soir, Jean Castex va devoir convaincre le Premier ministre et l'invité de l'émission que vous avez la parole sur France 2.
Oui, un grand oral télévisé, le premier pour le chef du gouvernement, qui va se retrouver dans la reine Jean-Rémy Baudeau face à des détracteurs qui l'attendent au tournant.
Jean Castex face notamment à des maires qui vont batailler chacun sur leur thématique, les incivilités, l'autorité de l'État, l'écologie. Castex face à Robert Ménard, maire de Béziers, Pierre Urmic, Bordeaux ou encore Johanna Roland pour Nantes. Sur la forme, cette émission, elle est pensée comme un grand débat, des échanges qui devraient permettre à ce quasi-inconnu qui dirige le gouvernement de se faire connaître, d'affirmer son identité politique, dixit son entourage. On parle de ce gaullisme social dans lequel il se prévaut. Sur le fond, c'est surtout en fait un pari pour Jean Castex. Il a été le monsieur déconfinement du gouvernement Philippe. Il se retrouve à gérer le pays dans une nouvelle crise. Le moment est grave, confirme Matignon. Un proche du Premier ministre promet des réponses sur, je cite, les insécurités des Français. Insécurité au pluriel, sanitaire, économique, sécuritaire. Jean Castex va devoir convaincre sur sa méthode, proximité et autorité. Deux notions qui semblent mises à mal, notamment aujourd'hui à l'image des polémiques dans la gestion du Covid.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 et toujours sur ce dossier Covid. Les hôpitaux de Paris annoncent ce soir qu'ils vont reporter 20% des opérations chirurgicales à compter de ce week-end face à l'afflux de malades du coronavirus en réanimation.
Et on y reviendra très largement dans votre journal, Isabelle Millet, à 19h.
Mais notez que le procès des attentats de janvier 2015 a été interrompu à la mi-journée après le malaise de l'un des prévenus qui présente des symptômes pouvant faire penser au Covid. Il devrait reprendre demain matin, mais beaucoup s'interrogent sur les mesures sanitaires, sachant que les accusés n'ont pas été testés. L'Union européenne appelle les États membres à durcir leurs mesures pour tenter de contrer la deuxième vague. C'est peut-être notre dernière chance, dit-elle, d'éviter que se répète la situation du printemps dernier.
En Espagne maintenant, un des pays européens les plus touchés, la région de Madrid va annoncer demain l'extension des mesures de restriction de la liberté de circulation.
Oui, sachant que près d'un million d'habitants de la capitale espagnole et de sa périphérie ont déjà l'interdiction depuis lundi de quitter leur quartier, sauf pour des raisons bien précises. La région a demandé l'aide de l'armée pour réaliser des tests et pour désinfecter les zones les plus affectées.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite de votre journal à 18h09, Isabelle Millet, il va y avoir une tempête économique et sociale, prédisait Édouard Philippe au sortir de la première vague, après le déconfinement. Eh bien, ça se confirme jour après jour.
Oui, alors pour éviter les licenciements, certaines entreprises négocient avec leurs salariés. Pas de licenciement, mais des gels de salaire.
Dernier en date. L'équipementier automobile Valeo, Clément Le Saffre.
Oui, hein, la direction a proposé aujourd'hui un accord à ses 13 500 salariés français. Pas de plan social ni de fermeture de site pendant 2 ans en échange d'un gel des salaires. Un plan qui doit permettre à Valeo de passer le cap de la crise économique liée au Covid, mais qui doit tout de même être encore validé par les organisations syndicales la semaine prochaine. En fait, c'est ce qu'on appelle un accord de performance collective. Ce n'est pas un outil nouveau. Il a été créé en 2017 par les ordonnances travail. Mais avec le Covid, ce type d'accord est devenu un moyen de lutter contre la crise au même titre que les accords d'activité partielle de longue durée. L'une des premières entreprises à avoir brandi cet outil, c'était la filiale aéronautique du groupe De Richebourg en juin. Pour éviter un plan de sauvegarde de l'emploi de 700 postes, la direction avait proposé une baisse temporaire des salaires de 20%, accord accepté par une majorité de salariés. Un accord similaire a ensuite été proposé au journal L'Équipe avec une baisse des salaires cette fois de 10%, plan en revanche refusé par les salariés et qui a donc obligé la direction à envisager une alternative. Et puis le dernier en date, c'était il y a quelques jours seulement, c'est Ryanair. Les pilotes ont accepté de baisser leur salaire de 20% pendant 5 ans. Un accord qui permet d'éviter le licenciement de 23 des 81 pilotes français de la compagnie.
Précision signée Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1. Merci Clément. Les officiers du port de Calais en grève pour réclamer de meilleures conditions salariales et une égalité de traitement avec d'autres ports français. Le trafic est en conséquence totalement à l'arrêt depuis ce matin.
Une enquête ouverte en France contre BNP Paribas accusée de complicité de crimes contre l'humanité au Soudan. elle n'aurait pas respecté l'embargo imposé.
Une autre enquête est en cours pour des faits similaires au Rwanda, sachant qu'en 2014, BNP Paribas avait déjà été condamné cette fois pour avoir violé l'embargo restreignant les transactions financières avec le Soudan, l'Iran et Cuba. Et elle avait dû payer une amende colossale de près de 8 milliards d'euros.
La justice encore avec l'enquête sur le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris rejette l'essentiel des recours déposés par la défense de l'ancien président.
La Chambre de l'instruction valide en effet les investigations lancées dans ce dossier ouvert il y a 8 ans. Les avocats de Nicolas Sarkozy ont encore la possibilité de se pourvoir en cassation.
Entre les manifestations des Gilets jaunes, les grèves et le Covid, vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour le vélo pour vos déplacements, mais attention.
Oui, attention, car si pédaler semble à la portée de tous, beaucoup ont tendance à oublier les règles élémentaires de sécurité routière. Les cyclistes, mais aussi les automobilistes qui doivent cohabiter avec les bicyclettes, d'où cette campagne qui va être lancée demain. Car Yasmina Katou, les chiffres sont parlants.
Et oui, il y a 30% de cyclistes en plus depuis le déconfinement. Et qui dit plus d'usagers dit plus d'accidents mécaniquement. 200 blessés supplémentaires sur les pistes ces trois derniers mois par rapport à l'année dernière. Alors pour ralentir le phénomène, la sécurité routière sensibilise les cyclistes sur leurs points faibles. Marie Gauthier-Melleret, déléguée à la sécurité routière, vise notamment les angles morts.
Les cyclistes n'ont pas toujours conscience de ces angles morts. Ça fait partie effectivement des éléments qui vont faire l'objet d'un texte dans les mois à venir permettant une nouvelle signalisation des angles morts avec des autocollants qui seront apposés directement sur les poids lourds et sur les autobus.
D'ici une semaine, vous pourrez lire à l'arrière des bus « Cyclistes, méfiez-vous des angles morts, ils portent très bien leur nom, le tout écrit jaune sur noir ». Autre mesure pour mieux partager la route avec les automobilistes et éviter les accidents, le marquage vélo au feu rouge, vous savez, ce qui permet aux cyclistes d'être devant les voitures, seront généralisés par décret. Et puis la sécurité routière mise sur l'apprentissage du vélo dans les écoles.
Merci Yasmina Katou.
Merci Isabelle, à tout à l'heure 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Prudence, car un département est placé en vigilance orange, Anissa.
Oui, et ce département, Julien, c'est celui des Pyrénées-Atlantiques, placé en vigilance orange, pluie, inondation. Ce soir, cette nuit et demain, le sud-ouest est touché par de fortes pluies orageuses, donc prudence. Alors demain matin, c'est encore sur le sud-ouest que le temps sera agité, avec dès le début de la journée des orages qui vont remonter jusqu'en Vendée et tout le long de la façade atlantique. En Corse, le vent souffle fort et les orages aussi éclatent. Sur tout le pays, en fait, c'est un ciel partagé entre averses et éclaircies. C'est très gris, hein. Demain, chanceux ceux qui verront des éclaircies. Et puis surtout, demain, c'est l'arrivée, je vous en parlais dans les titres, c'est l'arrivée de la neige. Elle tombe à 1500 mètres d'altitude, ce qui n'est pas très haut. Il neige sur les Alpes et sur les Pyrénées. Les températures, elles, continuent de chuter demain avec seulement 6 à 18 degrés du nord au sud. Et dans l'après-midi, il fait bien plus frais demain avec 10 degrés à Aurillac, 12 au Puy-en-Velay, 14 à Paris, Lille et Belfort, 15 degrés à Metz et Brest, 17 à Lyon, 19 à Montpellier, 21 à Marseille et 25 la maximale pour Bastia.
Incroyable, on a à peine rangé
la totale.
Les slips et les serviettes qu'il faut déjà ressortir les skis.
Exactement.
Merci Anissa.
À tout à l'heure.